remercie pour cette invitation. Je suis Yves Ekwe-Amaïso. Je dirige un think tank qu'on appelle Afrocentricité Think Tank, qui est un groupe de réflexion, mais aussi d'influence, notamment des décideurs essentiellement africains, mais de plus en plus aussi européens, occidentaux.
Parfait. Alors, dites-nous, la croissance en Afrique, on en parle beaucoup. Le FMI, la Banque mondiale disent que le continent africain fera partie des continents qui vont connaître une croissance très élevée dans les prochaines années. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette croissance en Afrique?
Alors, deux choses. Il y a deux parties de votre question. La première, cette croissance, soyons quand même sérieux, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que l'Afrique est le numéro 2 mondial de la croissance, après les pays asiatiques, notamment la Chine. Donc on ne vient pas nous dire que c'est aujourd'hui qu'il y a une croissance en 2013. Non, déjà en 2004-2005, c'était déjà là. Et seulement, ça ne se voyait pas. Et ça ne les intéressait pas, en tout cas ceux qui pensaient y investir. Donc il faut d'abord mettre des points sur les i, cette croissance elle est là. En plus elle est durable. Il faut savoir d'ailleurs qu'en 2008-2009, pendant la crise financière, alors que l'Europe était en récession, la plupart des pays étaient dans le rouge, l'Afrique était au-dessus. 2,2, 2,4, 2,8, selon les statistiques. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 5, 5,5 en moyenne, pour ne pas dire 6, suivant comment vous comptez les pays. Donc, si le monde arabe, notamment Afrique du Nord, n'avait pas eu ces difficultés, Égypte, Tunisie, que vous connaissez, je vous garantis qu'on était pratiquement au même niveau, ou en tout cas pas loin, avec les pays asiatiques, les pays émergents. Et donc, qu'on soit clair dessus, cette croissance économique africaine, elle est là depuis longtemps, elle est là pour durer. Elle est par contre très mal répartie, on aura l'occasion d'en parler.
Exactement. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette croissance en Afrique?
Voilà. Alors, la croissance, elle est très simple. Vous savez, dans un monde global où le commerce aurait dû être la base de la richesse de tous, vous savez comme moi que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, dans ses deux derniers mandats, a échoué. Il n'y avait eu aucun accord sur le commerce. Pour une simple raison, il y a eu une erreur fondamentale de stratégie de son directeur général, Pascal Lamy, qui voulait faire imposer, je dirais, du haut vers le bas, donc une décision d'ouvrir l'ensemble des marchés au niveau mondial, et après les appliquer au niveau sous-régional. Ce qui est la plus mauvaise des approches, il fallait plutôt faire par sous-région, voire continent, et une fois l'accord obtenu, voire même sous-sous-région, et remonter ça vers le côté mondial pour que les négociations se passent plus facilement. Ils n'ont pas voulu, il n'a pas voulu, et donc le résultat est le même, il n'a eu aucun résultat sur ce plan. Alors la conséquence c'est quoi? C'est que les gens ont compris, surtout les pays moins avancés, surtout les pays africains, notamment les plus faibles en termes industriels, et donc qui dépendaient de ce commerce, mais de commerce de matières premières non transformées. J'insiste bien dessus, les mines, le pétrole, les matières premières que vous connaissez, etc. Et donc ces prix-là, les prix de ces produits non transformés, qui étaient utiles au monde occidental en général, y compris le Japon, il s'est mis à augmenter parce que les gens se mettaient à négocier, à discuter et ne plus accepter les conditions draconiennes de prix relativement bas. Alors bien sûr, le pétrole, c'est le gros du dossier, mais il n'y a pas que le pétrole. Il y a l'ensemble des mines, de manière générale, l'ensemble des matières premières elles-mêmes. Donc vous voyez, ces prix se sont mis en gros à se stabiliser, voire à partir en augmentation. Et puis, vous savez, avec l'Internet et autres, mais depuis le village, on sait très bien quel est le prix du café, du cacao, etc. Donc on ne peut pas venir faire le malin pour le diamant, qu'on va tout vendre à Anvers. Non, le gars de Zimbabwe, qui est une des premières mines du monde aujourd'hui dans le domaine du diamant, ou d'autres, savent parfaitement les prix. Et donc ça se négocie sincèrement, donc c'est devenu compétitif. Il faut le reconnaître. Bien sûr, encore une fois, on reviendra sur les inégalités. Ça se faisait par des groupes, disons, de pression, des groupes économiques qui ne sont pas toujours au service de l'Afrique, ce qui est un autre problème. Mais les deux ensemble ont fait que les prix ont monté, puisque le besoin était là. Et qu'en même temps, écoutez, tout simplement, ça se réinvestissait d'une manière ou d'une autre dans ce que j'appelle l'économie de proximité, donc dans les pays africains eux-mêmes. Et donc, alors, du coup, il y a une croissance, il y a une activité, en fait, économique. C'est ce que traduit, d'ailleurs, le produit intérieur brut, hein, ce que vous appelez la croissance économique. Ça traduit une activité. Ça ne veut pas dire qu'on est riche, d'ailleurs. Les gens se trompent, d'ailleurs, dessus.
Et justement, peut-être c'est ça qui fait que cette croissance économique du continent africain n'est pas ressentie dans la vie de tous les jours des Africains.
Alors, oui, alors là, vous avez entièrement raison, parce que la croissance, c'est quoi? C'est un flux, c'est un mouvement. Quand vous courez vite sur le fond, je ne sais pas quel est l'état de votre santé. Je sais seulement que vous êtes passé devant moi à un temps X et à un temps T plus 1, X plus 1, et vous êtes passé. Mais je ne sais pas avant et après ce qui se passe réellement. Une fois que vous êtes arrêté, je ne sais pas si vous tombez KO parce que, écoutez, vous êtes allé trop vite et que votre cœur a lâché. C'est ça le problème, c'est qu'il faut à un moment donné s'arrêter et faire le bilan et regarder comment c'est redistribué. Donc il y a une accélération. Il y a eu un apport de richesse, effectivement, Mais on ne se pose pas la question comment cette richesse est arrivée. Attention, certains pays ont choisi l'endettement, ce qui est un autre problème, parce qu'il va falloir rembourser, et comme ils ont des délais de grâce, c'est-à-dire qu'ils peuvent payer un peu plus tard, 5, 10, 15, 20 ans ou plus, ben, souvent ce n'est pas eux qui portent la charge, c'est les générations futures. Il y en a d'autres qui ont choisi l'investissement par eux-mêmes ou par, disons, des partenariats intelligents qui permettaient à ce moment-là d'utiliser ce qu'on appelle des activités non génératrices d'endettement. Ceux-là sont plutôt les gagnants de ce système mondialisé dans lequel l'Afrique commence à poser... Mais c'est souvent des pays aussi démocratiques. Parce que là aussi, il y a un autre problème. Parce que si ce n'est pas démocratique, qu'est-ce qui se passe? Bon, la création a lieu, des richesses nouvelles apparaissent, elles ne sont pas distribuées, et donc les dépenses ne se font pas sur le territoire africain, mais à l'extérieur de ce territoire, sans compter les évasions fiscales, etc., sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc, qu'est-ce qui explique pourquoi ce n'est pas visible au niveau de 70% de la population qui sont dans les zones rurales, qui sont dans les zones urbaines, qui sont la pauvreté de manière générale? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas de distribution ou d'une répartition inégalitaire. Il y a une répartition inégalitaire. J'allais rajouter, ce n'est pas quelque chose de méchant, c'est aussi une conception qui ne va pas. C'est la conception africaine de l'entreprise. L'entreprise africaine, de manière générale, s'est alignée au gros sur le monde occidental et continue à baisser les salaires, baisser les revenus. Allez nous montrer les entreprises, à part quelques banques, où vous, quand vous travaillez beaucoup, vous touchez un salaire honorable. Souvent, ce sont les multinationales extérieures qui se sont délocalisées ou qui ont changé de nom, qui ont pris un nom local. Mais sur le fond, l'entreprise africaine, au sens noble du terme, c'est-à-dire dirigée par des Africains en tant que telle, il y a quand même beaucoup d'exploitation dans cette histoire. Donc il y a aussi un problème de conception économique qu'il faudrait peut-être copier les origines américaines où celui qui travaille beaucoup paye et touche beaucoup.
Alors, pour en revenir à la croissance, il y a deux pays africains, la Guinée équatoriale et le Swaziland, qui vont connaître une récession, c'est-à-dire une croissance négative pour 2013 selon les prévisions. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui explique qu'un pays comme la Guinée équatoriale, hein, qui est un pays exportateur de pétrole, n'arrive pas à avoir une croissance positive?
Vous avez bien fait de choisir ce cas. Voici un pays qui a un grand chiffre en termes de pétrole. Et comme vous dites, encore faut-il vérifier si les statistiques sont acceptables, sont vérifiables au sens qui donne des informations exactes. Mais supposons qu'elles le soient. Et l'explication est la suivante. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez choisi d'investir par l'endettement et que cet endettement s'est fait à des taux extrêmement élevés, mais vous avez des délais de paiement différés, il se trouve que l'investissement essentiel qui a été fait en Guinée équatoriale dans le pétrole s'est fait à ce taux-là, très élevé. Les rentrées sur le coût n'étaient pas mauvaises pour le gouvernement. Il y a eu un progrès assez extraordinaire dans ce pays. Sauf qu'après les délais de grâce qui sont terminés, hein, 5 ou 10 ans, je ne sais pas quel délai ils ont pris, ben vous commencez à payer réellement. Et si pendant 5, 10, 15 ans, vous n'avez pas fait attention, ça peut être des taux variables à des taux relativement élevés. Et alors que vous êtes toujours récemment encore en investissement. Et donc, ces investissements additionnels, ces remboursements qui doivent commencer, peuvent faire de manière conjoncturelle, donc effectivement en 2013, peut-être en 2014, que votre croissance, elle est nulle, voire négative. Parce qu'il s'est trouvé qu'à ce moment précis, vous ne pouvez plus en fait honorer les engagements que vous avez par rapport à vos recettes. Mais je ne crois pas du tout que c'est quelque chose de structurel. C'est vraiment conjoncturel. Très mauvais calcul du gouvernement, très mauvais taux d'intérêt au niveau de leurs engagements, quel que soit le type d'investissement qu'ils ont fait. Et n'oubliez pas, dans ce pays, on a tendance, quand l'argent arrive, d'aller aussi très vite, ce qu'ils appellent le développement accéléré, qu'ils veulent décréter. Et ça pose un problème de fond, c'est qu'ils s'engagent dans beaucoup de choses, et ils oublient qu'il va falloir payer. C'est comme quelqu'un qui est surendetté. Donc il faudra faire une étude sur ce pays pour savoir exactement s'ils n'ont pas largement dépassé le minimum qu'on demande à un individu, c'était 30% d'endettement, ils sont largement au-dessus d'ailleurs, et savoir aussi si la capacité de rembourser va se rétablir. Parce que le problème qui se pose, si ces taux d'intérêt continuent à évoluer, l'essentiel du pétrole ne rentre pas pour eux, mais pour ceux qui ont signé les contrats vers l'extérieur.
Parfait, merci beaucoup.